Au sommet, cette semaine.
Bon, Brice, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Dignité Noire sous CKIA 88.3 FM. Nous sommes le 24 mai 2021. Je m'appelle Mbaye Hadji, vous pouvez m'appeler Mbaye pour ce pour ceux pour qui c'est plus compliqué de m'appeler Mbaye Hadji, Mbaye Rewai, vous pouvez m'appeler Mbaye. Donc, bienvenue à cette émission, toujours un plaisir de vous retrouver. Je rappelle nos coordonnées, vous pouvez toujours nous suivre sur CKIA 88.3 FM, ainsi que sur notre site internet en direct, www.ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous regarder en direct et suivre nos publications sur la page Facebook Dignité Noire-CKIA FM. Alors, à l'émission ce soir, on a bien sûr Brice à la mise en onde et au menu, nous avons donc aujourd'hui un beau panel réalisé par Marielle Mbanga. Voilà, j'ai le nom. Marielle Banga qui nous présente trois comités de femmes engagées, des femmes féministes, des femmes racisées engagées plutôt de la ville de Québec. Il s'agit du comité des femmes immigrantes de la ville de Québec, du comité des femmes d'ici et d'ailleurs de la Ligue des droits et libertés et de Sisterhood. Bon, Sisterhood, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est. Vous allez connaître un bout tantôt. Mais avant cela, c'est notre chronique aux deux semaines, la chronique littéraire de Oumu aux deux semaines. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Oumu au studio pour la première fois. Bonsoir, Oumu.
Bonsoir, Maï.
Comment tu trouves notre beau studio? Bah, j'ai orienté un peu ta question, ta réponse. C'est ta première fois dans le studio, hein, en passant. Tu l'as fait déjà deux fois. Tu as fait deux chroniques sur Zoom,
oui,
compte tenu du couvre-feu. Mais là, c'est ta première fois. Et puis, bon, on a fait tantôt le tour du studio. Donc, je suis content de savoir que ça t'intéresse. Donc, nous sommes sur la rue Saint-Paul. Pour ceux qui ne le savent pas, nous ne sommes plus à Saint-Roch. Alors aujourd'hui, tu nous parles dans ta chronique littéraire d'un livre de Liliane Thuram intitulé « Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama ». Alors, Liliane Thuram, pour te faire une petite confidence,
oui,
c'est un habitué de notre émission, Liliane Thuram.
Ah bon?
Ah oui, je l'ai déjà reçu deux fois. Oui. Et puis la dernière fois, je l'ai reçu pour son dernier ouvrage, « La pensée blanche », magnifique ouvrage. Peut-être qu'il faudrait en parler un jour. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai reçu... deux fois donc, et on a un projet en commun avec sa fondation de l'inviter à Québec.
Ah, c'est super.
Ça aurait été déjà fait, n'eût été la pandémie.
Ouais.
C'est la pandémie qui a reporté cela.
Je serai là.
Parfait. Alors, tu seras l'une des hôtes, hôtesse de Liliane Thuram. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cet ouvrage?
Donc, aujourd'hui, déjà, j'ai décidé de faire ma chronique littéraire sur le livre de Liliane Thuram, « Mes étoiles noires » des éditions Point. Comme je l'avais précisé il y a deux semaines, c'est important pour moi d'évoquer des livres écrits par des auteurs noirs, puisque pour l'instant, je n'ai présenté que des autrices ou des auteurs eux. Un peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors ce livre, Mes étoiles noires, est sorti il y a quand même assez longtemps, en 2009. Ça fait déjà 12 ans. Je vais vous présenter rapidement Liliane Thuram, même si d'après Mbaye...
C'est un habitué de l'émission.
Joueur de soccer, comme on dit ici. Il a remporté la Coupe du Monde en 1998 et aussi la Coupe de l'Euro en 2000. Il est aussi le joueur avec le plus de sélections en équipe de France. Mais je ne suis pas là pour parler de football, même si j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Alors, Liliane Thuram, avant sa retraite, il s'est engagé pour les minorités et surtout contre le racisme. Ensuite, il a fondé sa fondation qu'il a créée en 2008, comme tu disais, Mbaye, qui s'appelle Liliane Thuram, éducation contre le racisme. L'objectif de sa fondation, c'est d'éradiquer les discriminations raciales. Donc, revenons-en au livre « Mes étoiles noires ». Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? J'ai choisi ce livre parce que, comme l'explique Liliane Thuram, lorsqu'il était à l'école, en tout cas dans son cursus scolaire, à aucun moment en histoire, en sciences... ou dans d'autres matières, on a évoqué des personnes noires, des héros noirs, des inventeurs noirs, ou en fait c'est comme s'ils n'en existaient pas, mais c'est surtout comme si ils ne faisaient pas partie de l'histoire. Pour ma part, j'ai eu un peu le même ressentiment car j'ai aussi été à l'école en France et au Québec. Ben, au Québec, je pense que c'est un peu pareil. On peut le voir avec l'esclavage au Québec qui reste quand même assez méconnu. Et quand on parle de personnes noires, c'est surtout pour parler de l'esclavage ou de la colonisation. Alors, bref. Mes étoiles noires, c'est un livre qui reprend le cours de l'histoire en mettant en avant des personnes noires qui ont fait des choses et qui méritent d'être connues. Dans le livre, il n'y a malheureusement pas de Canadiens, mais il y a des personnes qui sont passées par le Canada, telles que Harriet Tubman. Liliane Thuram évoque aussi des personnalités connues telles que Lucie, l'Australopithèque découvert en 1974, Aimé Césaire, Martin Luther King, Malcolm X ou bien Nelson Mandela, mais aussi Tupac et bien sûr Barack Obama. Il évoque aussi des étoiles noires africaines telles que les tirailleurs sénégalais, des Africains qui ont participé aux deux guerres mondiales dont on ne parle pas assez et aussi d'autres personnes africaines. Je vais donc vous présenter quelques étoiles noires qui méritent d'être connues et que j'ai découvert à travers le livre, en tout cas pour certains. Donc la première personne que j'ai choisie, c'est Donna Béatrice. Donna Béatrice est une jeune fille qui est née au Congo vers les années 1682 et qui est décédée en 1706. Elle est née d'une famille aristocratique du Mukongo sous le nom de Kimpa Vita. Un jour, elle grelotte de fièvre au fond de son lit et tout le monde la donne pour morte.
elle voit dans son rêve un homme habillé en moine et aussitôt que la fièvre tombe, elle explique à ses parents sa vision et l'importance du commandement divin. Elle décide de distribuer toutes ses richesses et renonce au bien du monde. À 20 ans, elle se rend compte que les Noirs ne sont pas traités comme des frères. Elle a une grande foi en Christ. Elle mène les traditions africaines avec l'enseignement catholique. Elle tient des discours à la population comme des missionnaires contre les missionnaires portugais qui étaient à l'époque au Congo. Des milliers de fidèles la suivent. On vient la voir de partout. Pour les missionnaires, cette situation est devenue intolérable. C'est à ce moment que Dona Beatrice disparaît brusquement. Certains s'imaginent qu'elle a fui, d'autres qu'elle est partie au ciel. Les troupes portugaises la cherchent et finissent par la retrouver avec son compagnon et leur enfant qui vient de naître. Cet enfant est la preuve de son imposture par les missionnaires. Il la traite de menteuse, la brutalise, puis il décide de l'exécuter. À l'époque, la brûler vive sous le bûcher, l'exécution. C'est une triste histoire, mais c'est important de savoir qu'il y avait des femmes noires leaders à l'époque. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de Dona Beatrice ? Je vous en parle parce que il y a deux semaines, lorsque je présentais l'autobiographie de Maya Angelou, pendant un moment, elle parlait des Africaines comme des femmes soumises. Et à travers ce passage, on voit qu'il existe des femmes africaines combattantes, mais aussi car l'histoire de l'Afrique est assez méconnue. Comme par exemple, aujourd'hui, on écrit le Congo avec un C, fruit des colons français, alors qu'à l'origine, il s'écrit avec un K. Qu'est-ce que ça veut dire Congo ? Congo, ça signifie cercle, univers, centre de l'univers. En mettant un C, en fait, on dénature le sens du pays, on dénature ces femmes et les hommes qui habitent au Congo, et on falsifie l'histoire millénaire d'un peuple. Donc la prochaine fois que vous verrez le mot Congo écrit avec un C, pensez-y. La deuxième personne que j'ai choisi de vous présenter, c'est Jean-Jacques de Salines. Donc, il est né le 20 septembre 1758 et est décédé le 17 septembre 1806. Alors, la semaine dernière, le 18 mai, c'était le jour du drapeau haïtien. Et quand on parle de la libération d'Haïti, on parle très souvent, en tout cas, on met en avant Toussaint l'ouverture. Donc aujourd'hui, je voulais mettre en avant une autre personne qui a contribué à la création d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines. Donc Jean-Jacques Dessalines, c'est un ancien esclave, il a connu une enfance rebelle, il a tellement fugué que sur son corps, il s'était recouvert de beaucoup de cicatrices. En octobre 1803, avec 20 000 hommes, il met le siège devant le Port-au-Prince. Donc la ville tombe et le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance et annonce que le nouvel État s'appellera Haïti, le nom amérindien de Haïti. Donc il restitue en fait avec ce nom l'origine en rendant hommage à la population autochtone qui a été quasi exterminée dès l'arrivée des Blancs. Alors pourquoi on appelle le 18 mai le jour du drapeau ? Donc le 18 mai 1803, Dessalines a arraché d'un geste rageur la bande blanche du drapeau français, puisque le drapeau français c'est bleu, blanc, rouge, puis a tendu les deux parties restantes à une femme, Catherine Flon, qui les aurait cousues avec ses longs cheveux en guise de fil. Il aurait ensuite opté pour un bleu plus foncé. Donc ça explique aujourd'hui pourquoi le drapeau d'Haïti est bleu et rouge. Donc la France a reconnu Haïti en 1825 à condition de payer une dette de 21 milliards de dollars. C'est quand même une aberration, mais bref, le rêve politique de Dessalines qui était d'avoir une nation libre et autonome n'est malheureusement pas accompli aujourd'hui. Donc pourquoi j'ai choisi de vous en parler ? Pour mettre en avant une personne importante de l'histoire d'Haïti, mais aussi de vous expliquer l'histoire de la couleur du drapeau. Et la troisième personne que j'ai choisie, c'est Harriet Tubman. Donc Harriet Tubman, elle est née Araminta Ross. Elle est née vers 1821 et elle est décédée en 1913. Donc dès son plus jeune âge, elle travaille dans les champs, elle sème le maïs, le coton. Donc on ne sait pas grand-chose de son enfance, mais comme beaucoup de femmes esclaves de l'époque. Donc sa vie s'est faite de violence, d'injustice, d'humiliation. En 1844, elle se marie et elle prend le nom de son mari, John Tubman. Son maître meurt en 1849 et on sait qu'à l'époque, la mort d'un maître, ça entraîne des successions. Donc des successions, la vente d'esclaves. Craignant de se retrouver dans le sud où les conditions sont pires que dans le nord, Harriet songe à la fuite. Elle décide de s'enfuir, mais son mari ne la suit pas. Elle traverse les forêts, elle mange dans les forêts, elle dort dans les forêts. Et en fait, c'est à travers les forêts qu'elle rencontre un groupe qui s'appelle les Quakers. Donc les Quakers, c'est une société religieuse, des amis qui vont aussi l'aider pendant son périple dans les forêts, dans la forêt. Et en chemin, elle rencontre des abolitionnistes de toutes confessions et de toutes couleurs qui militent au sein d'un réseau d'évasion d'esclaves nommé le chemin de fer clandestin. Donc tous vont la soutenir, donc parfois ils vont la dissimuler dans un sac, parfois dans des carrioles, donc elle fuit toujours. Après, elle est vraiment marquée par ce réseau de solidarité. Elle fréquente assidûment le milieu abolitionniste et elle décide de participer à la lutte. C'est un monsieur nommé William Steele qui l'initie aux techniques de clandestinité, c'est-à-dire qu'il lui apprend à se débrouiller et à brouiller les pistes. Il lui enseigne le vocabulaire codé, puisqu'à l'époque, il y avait un vocabulaire codé entre les esclaves. Il y a aussi, ben là, c'est le seul moment, en fait, tout à l'heure, je disais qu'on ne parlait pas de Canadiens dans le livre, mais c'est le seul moment où on cite un Canadien dans le livre. C'est Alexander Ross qui l'a aussi aidé. Et en fait, lui, il voyageait de plantation en plantation et il se faisait passer pour un ornithologue. Donc, un ornithologue, c'est une personne qui fait des études des oiseaux. Donc, Harriet, elle ramasse un peu d'argent. Et en fait, son premier voyage, elle veut le consacrer à sauver sa famille. Elle a 4 frères et une sœur en esclave au Maryland, là où elle a grandi. Elle s'appuie beaucoup sur la communauté noire et elle a réussi à sauver ses frères, mais pas sa sœur. Donc, le 18 septembre 1850, le traité des fugitifs, le traité pardon, qui s'appelle Fugitive Slave Act est signé entre les États sudistes esclavagistes et les États nordistes abolitionnistes, qui statuent que maintenant, à partir de maintenant, tous les esclaves qui sont évadés, doivent être les policiers doivent les aider pour retrouver les esclaves. Avec ce traité, tous les policiers du Nord sont dans l'obligation d'arrêter les esclaves soupçonnés d'être en fuite et de les livrer aux autorités. Et toute personne qui apporte de l'aide à un fugitif est passible de 6 mois de prison et d'une lourde amende. Alors le Nord des États-Unis devient à ce moment-là irrespirable. Le réseau des chemins de fer clandestins réagit et envoie maintenant désormais au Canada les esclaves échappés. Donc, au Canada, l'abolition de l'esclavage existe depuis 1834. Donc, selon Lilian Thuram, il n'y a aucune humanité particulière à ce geste. C'est simplement que l'avancée industrielle britannique rendait l'esclave inutile. Par ce chemin, donc par le chemin clandestin, il y a eu 30 000 esclaves qui ont trouvé leur liberté au Canada ou dans les États libres. Et pendant une dizaine d'années, Harriet Tubman, elle a accompli 19 voyages dans le Sud. Et elle a escorté plus de 300 esclaves vers les États libres et sans en perdre un seul. Alors pourquoi j'ai présenté de vous présenter Harriet Tubman, cette étoile noire? Car déjà, on parle un peu du Canada, mais surtout que Harriet Tubman a marqué l'histoire de l'esclavage avec sa bravoure, sa détermination et son courage. À la fin de sa vie aussi, elle a aussi construit une maison pour les pauvres et les personnes âgées noires. Donc moi, j'ai une petite question, Mbaï, parmi ces 3 personnes que je t'ai présentées, est-ce qu'il y en a que tu connaissais?
Ah, c'était la Donna Béatrice, Harriet Tubman, et puis qui là, le 3e, 2e?
C'est Jean-Jacques de Salines.
Oh, bien sûr, de Salines, l'un des pères de l'indépendance haïtienne, bien sûr. Moi, je suis un fan de l'indépendance haïtienne. Si tu sais que j'étais allé en Haïti.
Oui.
J'ai fait République dominicaine à Haïti. J'étais allé en Haïti pour... Vraiment, c'est un voyage de type politique. Là. J'étais allé dans la base militaire de Roi Christophe. Je ne sais pas si c'est une histoire, c'est une pièce d'Aimé Césaire, le Roi Christophe. Oui. Moi, j'ai appris ça. On a lu ça à l'école, au lycée. Puis j'étais allé, c'était au nord de l'Italie, Fort La Liberté, là où était la base militaire de Dessalines et de Roi Christophe. J'étais allé sur le site là, militaire. Puis j'ai visité le camp militaire, la base où était le roi Christophe. T'sais. C'était frappant de faire ça. J'étais allé jusqu'en Haïti, jusqu'à Port-au-Prince, Cap-la-Liberté. Là. Non, c'est Haïti, c'est pour toute personne noire ou toute personne noire consciente, Haïti, c'est un fort de liberté. C'est le premier pays bâti par les esclaves amenés dans les Amériques. Et puis, Donna Béatrice, c'est la fameuse Kimpa Vita. On l'appelle aussi Kimpa Vita.
C'est ça.
Magloire, notre chroniqueur Magloire, a écrit un livre sur Kimpa Vita.
C'est
oui,
super.
Un roman historique sur Kimpa Vita. D'ailleurs, j'ai acheté le livre, il faut que je le lise. On va l'inviter peut-être à en parler un jour. Et Harriet Tubman, bien sûr, la fameuse Moïse Noire, comme on dit.
Oui.
Il y a une série sur Amazon Prime. je crois, qui passe actuellement, ça s'appelle Underground, qui porte en partie sur la fuite des esclaves, là, conduite par Harriet Tubman. C'est une série américaine de 20 épisodes, chacune fait 43 minutes, donc ceux qui ont Amazon Prime peuvent aller suivre ça. Et il y a un film d'ailleurs, l'année passée, je pense, il y a un film sur Harriet Tubman, ça s'appelle Harriet Tubman aussi, qui était sorti. Il y avait un peu de controverse parce que l'actrice était britannique, fait quelques noirs américains disaient, ah oui, pourquoi on a pris une noire, machin, truc qui était venu. Mais fait que voilà, c'est des personnes que je, personnages que je connais quand même.
Bah,
mais des personnages que nos jeunes ne connaissent pas. Et donc c'est important d'avoir un livre comme ça, comme celui-là.
Oui, ben, c'est pour ça en fait que j'ai choisi ce livre, ben, pour qu'on puisse se poser des questions aussi avant l'été, parce que l'été c'est aussi un moment où on se repose, un moment où on peut prendre du temps, comme par exemple du temps pour lire, car tout est un peu ralenti. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est qui sont vos étoiles noires et quelles sont les personnes noires qui ont marqué l'histoire du Canada ou d'autres pays auxquels vous êtes attachés. Ben, si vous en connaissez pas, je vous invite à faire des recherches, mais pour ma part, je reviendrai très bientôt pour vous présenter des étoiles noires à travers les livres et pourquoi pas des étoiles noires canadiennes. Donc, bye, est-ce que toi, tu as un nom en particulier pour des étoiles noires canadiennes?
Joséphine Angélique.
Oui.
Celle qu'on a brûlée à Montréal faussement, là.
Oui.
Oui, ça c'est... Et puis Charlotte. Charlotte, grâce à qui on a levé l'esclavage, on a arrêté l'esclavage au Québec. Parce que Harriet, Charlotte, elle fuyait souvent.
Oui. C'est,
elle fuyait, on l'a rattrapée, elle fuyait. Et puis, bah, on l'a amenée devant le juge. Le juge a dit, mais il n'y a pas une loi qui autorise l'esclavage au Québec, fait qu'elle est libre. Fait que c'est comme ça que les Noirs québécois étaient libres de l'esclavage. Fait que oui, j'ai quand même des héroïnes noires aussi, toi.
Super.
Oui, c'est ça. Bah, Angélique, Joseph Angélique et puis Charlotte, ça, c'est, je pense que c'est des personnages à connaître. Mais tu as raison, peu de personnes noires connaissent ces personnes-là, personnages historiques-là. Puis c'est bien de faire connaître ces personnages-là. Je crois qu'au Québec, il n'y a pas... Webster a essayé, il a fait un livre là sur comment il s'appelle là?
Olivier Lejeune.
Mais je pense qu'il devait en avoir davantage là. Dans le Canada anglais, j'ai vu qu'à Toronto, il y a une femme qui écrit des petits ouvrages comme ça pour les jeunes noirs. Aux États-Unis, ils l'ont fait. La femme à Martin Luther King avait fait une série d'ouvrages là pour les jeunes enfants noirs dans les années 60. Presque tous les jeunes noirs aux États-Unis ont lu les petites séries de la femme de Martin Luther King. Mais dans le Québec, je pense que c'est un ouvrage, quelque chose à faire. Ouais.
Oui,
faire
y
des
y a
petits
beaucoup de
ouvrages
faire.
Comme ça pour nos enfants, ça te tente-tu de le faire? Ah, c'est bien ça. On a une lectrice devant nous. Parfait. Mais je pense que ça vaut le coup. Tu sais. C'est important que les jeunes noirs se reconnaissent dans l'histoire. Parce que nos jeunes grandissent avec... ils ne savent pas d'où ils viennent souvent, parce qu'ici on n'enseigne pas l'histoire des Noirs, on n'enseigne pas ce que les Noirs ont fait. Puis ils grandissent dans l'amnésie de notre histoire. Et je pense qu'on ne peut pas se construire une personnalité noire en faisant fi de cette histoire-là, de notre passé. Je trouve que c'est important que, si l'école ne le fait pas, nous devrons y pallier. Et d'ailleurs, moi j'ai reçu ici un auteur haïtien qui a écrit un livre sur les inventeurs noirs. Puis j'ai tellement appris de choses. Ceux qui ont inventé les ascenseurs, les feux de signalisation. Écoute, les Noirs ont tellement inventé des choses. Mais je dis, pourquoi personne n'en parle?
On va en parler bientôt dans une prochaine chronique.
Parfait.
Avec ce livre. Et puis, en ce moment, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans des mouvements comme ça, dans des groupes, et qui veulent aussi apprendre à leurs enfants. Donc, maintenant, il faut trouver des auteurs ou des personnes qui écrivent notre histoire.
Mais ce qu'on pourrait faire, c'est, moi, je pense que c'est une bonne idée, c'est-à-dire, tu peux le faire, c'est une idée que je te suggère, publier sur notre page Facebook un ouvrage pour les jeunes, destiné aux jeunes, pour les mamans.
Oui.
Je pense que c'est important. L'école ici au Québec ne le fait pas, mais je pense que chaque parent devrait le faire. Acheter des livres pour parler de ces auteurs-là, des inventeurs noirs. Bah, tu sais, ça peut faire des lectures de soir là, avant que les enfants aillent au lit. Là. On leur lit ces genres de petites histoires le samedi, on fait des petits jeux. Qui est Donna Béatrice, qui est Kim Pavita, qui est Harriet Tubman. Je pense que les parents ne devraient pas, nos parents en tout cas, les parents noirs ne devraient pas attendre simplement que l'école fasse ça. L'école ne le fera pas. Là. Tu sais, l'école, je pense, c'est une école blanche, disons-le. Là. Fait que c'est à nous de pallier à ça, à ce manque-là. À la maison, nous devrons aussi apprendre l'histoire de nos enfants, apprendre l'histoire des Noirs, les Noirs québécois, les Noirs canadiens, etc. Et il y a des maisons d'édition en France qui publient ce genre d'ouvrages-là. Au Québec, il n'y en a pas, mais je sais qu'en France, il y a deux maisons d'édition qui publient des petits ouvrages comme ça sur l'histoire des Caraïbes, sur l'histoire de l'Afrique, accessibles aux jeunes. Bref, du travail à faire. Nous, on le fait à la radio, mais ce n'est pas beaucoup, c'est une heure, ce n'est pas suffisant. Là.
Oui.
Faut le faire dans les maisons. à commencer par les parents eux-mêmes qui devraient apprendre cette histoire parce que beaucoup de parents noirs sont dans l'ignorance de leur propre histoire. Alors, mon cher Brice, je pense qu'on ne va pas aller à une pause. On va aller directement à la diffusion du panel enregistré par Marielle Mbanga hier. Elle a réuni trois femmes pour présenter leur comité. Il y a des femmes engagées, des femmes racisées engagées qui œuvrent dans les comités de femmes féministes ici à Québec, mais qu'on ne connaît pas très bien. Et puis Marielle s'est faite le pari de leur donner le micro. Donc, elle a organisé un beau panel hier avec trois femmes. Il s'agit de Plaki Balimba, qui a mis sur pied, qui possède le salon de coiffure Ébène, que pas mal de gens connaissent, mais qui a mis sur pied un petit groupe de sororité, voilà, c'est ça, de sororité, de femmes afro-descendantes. T'en fais partie, Oumou?
Je fais partie de ce groupe génial que Placida a créé.
Ah,
c'est vraiment bien. Après, on va écouter l'interview, mais ce qu'elle fait, c'est génial, puisque sur Facebook, on peut se parler, on peut s'écrire des messages, tout le monde répond. On est vraiment un collectif engagé.
Parfait, j'ai hâte d'en entendre parler aussi. Donc, le groupe Sisterhood créé par Plaki. Ensuite, Madame Samira Fengigi. Oh, Samira du groupe Comité des femmes d'ici d'ailleurs de la Ligue des droits et libertés. Ensuite, et Madame Gisèle Maria Samouès du Comité des femmes immigrantes de la ville de Québec. Donc, trois comités féministes dont Marielle va nous parler. Tout de suite, bonne écoute.
Non, pas les femmes immigrantes.
Bon, alors on a une femme engagée devant nous. Brice, est-ce que c'est prêt? Pas encore? Parfait. Bon, on va attendre d'ici le temps que tu nous en parles. Voilà. Donc, oui. Toi, tu fais partie des deux comités, là.
Oui, je fais partie des deux comités. Donc, je vais parler du comité du Sisterhood. Et là, je vais parler du comité femmes d'ici et d'ailleurs égales en droit. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait vraiment, c'est axé vraiment sur le droit. Et sur l'engagement des femmes.
Le droit
d'ici.
Des femmes.
Ouais, sur le droit des femmes.
Ok, ça c'est bien.
Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été faites cette année. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire aussi. Mais c'est vraiment un collectif. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de collectif ici, dans la ville de Québec. Et pour moi aussi, je pense que c'est aussi important qu'elle soit plus visible et plus vue aussi.
Bon, je pense que c'est l'émission. Oui, ça passe. Qu'est-ce qui se...
magazine Dignité Noire avec Mbaye Hadji, Mbaye Riway.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Donc, nous venons d'écouter le beau panel organisé par Marielle Mbangas-Sogué, Marielle que je remercie pour cette initiative. Et donc, vous avez les coordonnées de ces groupes de femmes sur notre page Facebook. Donc, Comité des femmes immigrantes de la ville de Québec, donc CIFQ, je crois. Vous avez le Comité des femmes d'ici et d'ailleurs de la Ligue des droits et libertés. Et puis, Sisterhood. Bon, Sisterhood, comme c'est un groupe de solidarité, je pense qu'elles n'ont pas une page Facebook ouverte. Alors, merci beaucoup, Plaki. Merci à tes trois invités, Samira, Gisèle et Placida. Eben également. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission de ce jour. Je vous annonce que demain, 25 mai, c'est la journée internationale de l'Afrique, n'est-ce pas ? On aurait dû faire une émission là-dessus, mais bon, le programme est tellement chargé. Mais je vous rappelle, demain, c'est la journée internationale de l'Afrique, donc vous pouvez avoir des événements sur la page Facebook. Éventuellement, nous ferons une émission peut-être en juin sur le sujet. Demain aussi, 25 mai 2021, ça fait... Rappelez-vous, hein, 25 mai l'année dernière, c'était l'assassinat de George Floyd qui a enclenché une vaste mobilisation à travers le monde. Donc, 25 mai 2021, ayons une pensée pour George Floyd, sa fille et toute sa famille. Dignité Noire va organiser une émission spéciale là-dessus le 7 juin, parce que le 7 juin, ça marque la date du premier anniversaire de la grande mobilisation Black Lives Matter qui a eu lieu ici à Québec. Le 7 juin 2020 devant l'Assemblée nationale. Donc on va essayer avec quelques invités, on essaiera de faire le bilan. Après une année après la mort de George Floyd, qu'est-ce qui a changé, en particulier dans la ville de Québec? Donc on essaiera de faire le point là-dessus. Si vous avez des questions, des questionnements, des angles, des points de vue que vous voulez apporter, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire sous Dignité Noire-CKIA-FM. Alors c'est tout pour ce soir, mon nom est Mbaye Hadji, Mbaye pour les habitués. J'étais avec Brice donc depuis 19h. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre, réécouter cette émission en baladeuse sur www.ckifm.org. Nous suivre durant toute la semaine sur la page Facebook d'Unité Noire, CKIA-CKIA-FM. Et suivez toutes nos belles émissions sur 88.3 FM. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, le 31 mai. Vous aurez une entrevue c'est Marielle encore, je crois. Marielle va faire une belle émission sur le rapport entre la DPJ et les jeunes enfants racisés. Donc, c'est une belle entrevue que je vous invite à suivre lundi prochain, 31 mars, à 19h. D'ici là, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Ciao.
Vous écoutez le magazine Dignité Noire avec Mbaye Hadji, Mbaye Riway. Vous écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbaye Hadji, Mbaye Riway. Vous écoutez CKIA et le magazine Dignité Noire.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Le regroupement des organismes Espace du Québec lance un jeu en ligne pour prévenir la violence faite aux enfants. Dans le jeu Futur à Ville, les jeunes de 9 à 12 ans doivent remplir 5 missions ludiques pour aider d'autres jeunes à retrouver leurs droits.
Puis le jeu, est-ce qu'il est fun?
Oui! Il y a même remporté le prix du meilleur jeu à impact social à l'événement Megamig 2020.
Ouh, ça doit coûter cher!
C'est gratuit!
Et pour jouer, comment on fait?
Tu vas au www.espacesansviolence.org/jeunesse ou tu cherches Futur à Ville sur Apple Store ou Google Play.